Biodiversité, de Darwin aux OGM, avec Pierre-Henri Gouillon.
Merci et merci donc au salon Primevert et Biocop de me donner l'occasion de vous parler. Merci à vous d'être là. Je suis content de pouvoir vous parler de biodiversité. C'est un sujet que je trouve passionnant, que j'étudie depuis de nombreuses années. Et l'étude de la biodiversité m'a amené à me rendre compte que tout compte fait, ce qu'on raconte sur la biodiversité, c'est souvent pas très exact. Et que c'est malheureusement très très influencé par nos origines culturelles religieuses. Et que malheureusement, ces origines culturelles religieuses n'ont pas nécessairement une vision scientifique très moderne de la chose. Alors, je voudrais commencer par vous parler de ce que c'est vraiment que la biodiversité, par rapport à ce qu'on en raconte d'habitude. Et puis ensuite, on verra un petit peu ce que ça donne, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Alors moi, je suis effectivement ingénieur agronome de formation, mais j'ai toujours fait toute ma carrière en recherche au CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique qui s'occupe de la recherche fondamentale en France. Et j'ai travaillé dans le domaine de l'évolution, donc de la génétique et de l'écologie. J'ai essayé de comprendre comment la diversité se fabriquait avec des phénomènes génétiques, des phénomènes écologiques, et au cours de l'évolution des êtres vivants. Alors, quand on parle de biodiversité, eh bien, il est de bon ton de montrer des jolies photos pour dire à quel point c'est bien la biodiversité. Regardez, il y a des belles plantes, il y a des beaux animaux, il y a même des belles personnes. Et voilà, ça a un double défaut. Le premier défaut, c'est qu'évidemment, on a choisi les photos avec soin et que si on en avait choisi d'autres, ça donnerait peut-être un autre effet. Hein, et que peut-être les gens trouveraient que tout compte fait, la biodiversité, c'est pas aussi joli que ça. Et donc ça dépend, et encore là, j'ai pas mis des trucs qui rendent trop malade, mais donc voilà, je pense que cette première manière de faire, elle est un petit peu trompeuse, mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que présenter la biodiversité comme ça, c'est la présenter comme une sorte de collection de timbres. Et d'ailleurs, ce qui va avec, les gens qui étudient la biodiversité ont l'air de gentils chasseurs de papillons qui vont épingler leur machin dans des boîtes. C'est vrai que je travaille au muséum, aujourd'hui, je suis prof au Muséum national d'histoire naturelle, il y a des gens qui mettent des papillons dans les boîtes, mais n'empêche que le but, ce n'est pas seulement de mettre des papillons dans les boîtes, c'est bien de comprendre ce qui se passe dans la biodiversité, dans le monde vivant. Et ça, eh ben, ce n'est pas aussi évident que ça. Et en réalité, quand on regarde l'histoire un peu de la vision qu'on a pu avoir de la biodiversité, eh ben, il y a eu énormément de variations dans le temps. Reconnaître qu'il y a des espèces, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être un humain pour le découvrir. Il n'y a pas besoin d'être un humain pour découvrir qu'il y a des espèces. Mon chat reconnaît très bien un chien d'une souris. Mais les humains ont théorisé la chose, disons. Et ils l'ont théorisé d'une façon assez diverse avec le temps. Si vous regardez simplement au XVIIe siècle en France, dans les traités de botanique, vous trouviez ces planches-là. Il y a trois traités de botanique, trois fois la même forme. C'est un arbre dont il est dit dans tous ces livres de botanique que des feuilles tombent de cet arbre. D'un côté, elles touchent l'eau et se transforment en poisson. De l'autre, elles touchent le sol et se transforment en oiseau. Voilà. Et ça, tout le monde y croyait au XVIIe siècle. À l'époque, d'ailleurs, on a aussi découvert les spermatozoïdes. Hein, le premier type qui a inventé le microscope, il a tout de suite découvert ses propres spermatozoïdes. Et on a tout de suite dessiné un petit bonhomme comme ça dans le spermatozoïde à gauche. Et je voudrais insister sur un point, c'est que notre culture influence terriblement notre vision des choses. Or, vous voyez, l'idée, c'était qu'il y avait un petit bonhomme dans le spermatozoïde et que ce petit bonhomme, eh bien, il allait grandir dans la mer. Hein. C'est un peu grave hein, comme idée quand même. Ça veut dire que la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la semence du père. Mais malheureusement, on raconte encore ça aux enfants dans nos pays. Il y a plein d'irresponsables qui disent aux enfants que pour faire un bébé, le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Mesdames, ne laissez plus dire ça. Hein, parce que ça donne tout jeune à l'enfant l'idée qu'il est le fils de son père et que la mère n'a été que nourricière. Alors c'est un vieux problème d'anthropologie, je détaille pas. Mais vous voyez que même aujourd'hui, des choses comme ça dont on sait qu'elles sont fausses continuent à être véhiculées par notre culture. Et je pense que c'est assez important. Alors, à cette époque-là, donc, on pouvait... Mais à cette époque-là, on pensait que si la semence humaine tombait non pas dans une femme, mais dans la terre, eh bien, ça faisait une plante, la mandragore. Voilà, donc, vous voyez des arbres qui donnent des oiseaux, de la semence humaine qui fait des plantes. Évidemment, vous savez que les nuits de pleine lune, les hommes peuvent se changer en loup. Jusqu'au XVIIIe siècle, on admettait l'idée que les espèces étaient des catégories qu'on savait reconnaître, mais que les individus pouvaient passer d'une espèce dans l'autre par des métamorphoses. C'est seulement au XVIIIe qu'on va refuser ça, qu'on va se rendre compte que ça ne marche pas, enfin que ça ne marche pas en général. Et sous l'impulsion d'un certain nombre de grands naturalistes, dont le Suédois Carl Linné, on va commencer à mettre de l'ordre dans le fouillis de la biodiversité. Et donc Linné va créer ce qu'il appelle un système de la nature. Il va d'ailleurs créer, en faisant ça, une nouvelle science qui s'appelle la systématique, qui est la science de la classification des êtres vivants. Et dans cette systématique, donc, il va lancer l'idée qu'on va classer les espèces de façon hiérarchique, c'est-à-dire que les espèces sont regroupées en genres, les genres sont regroupés en familles, en ordre, en classe. Il y a une classification hiérarchique. Et dans les espèces, d'ailleurs, on fait des catégories, des sous-catégories, les sous-espèces ou les variétés ou races. Alors, je ne parle pas des races ici. On en a suffisamment parlé grâce à une femme politique célèbre. Mais effectivement, toutes ces catégories sont des catégories floues. Hein, il faut bien le voir. Même la catégorie espèce, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Mais bon, on reviendra un peu là-dessus. Donc Linné va faire ça, il va le faire sur une base théorique extrêmement claire. Il explique que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Oui, que les espèces, pour Linné, ont été créées une fois pour toutes, et elles sont éternelles et immuables. Le monde que nous propose ces naturalistes de l'époque des Lumières est un monde parfaitement stable. Il a été créé une fois pour toutes et il ne bougera jamais. Et en particulier, évidemment, les espèces, eh bien, on ne passe plus d'une espèce dans l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de métamorphose? Eh bien, si, les métamorphoses existent toujours, mais elles sont réservées à des cas où les individus vont se métamorphoser, c'est-à-dire changer de forme, mais sans changer d'espèce. En fait, c'est une décision qu'on prend au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Jusqu'au XVIIIe siècle, une espèce était définie par sa forme. Et évidemment, la chenille qui est à gauche sur l'image que vous voyez n'était pas dans la même espèce que le papillon qui est à droite. Mais il y avait une métamorphose de l'un à l'autre. Le jour où on décide qu'il n'y a pas de métamorphose entre espèces, on est obligé de mettre la chenille et le papillon dans la même espèce. Mais alors, ils ne se ressemblent plus du tout, vous voyez. Donc c'est embêtant parce que ça veut dire qu'une espèce n'est plus un ensemble d'individus qui se ressemblent, mais un ensemble d'individus qui s'engendrent les uns les autres. On va être obligé de changer la définition même de l'espèce. Au lieu de fonder l'espèce sur l'idée de ressemblance, on va la fonder sur l'idée de descendance commune. Et du coup, ça change complètement la vision de ce que c'est que la classification des êtres vivants. Toute la systématique, d'ailleurs, a continué à évoluer là-dedans. Et c'est aujourd'hui, on ne reconnaît plus aucune autre manière de classer les êtres vivants que de les classer par origine commune. Bon, ça, c'est un point technique qui n'est pas très important pour nous aujourd'hui. À l'époque, on n'hésitait pas à classer les êtres vivants, les êtres d'ailleurs en général, selon une échelle des êtres. Vous voyez en bas, le non-être, les minéraux, en haut, l'être parfait, Dieu, et puis entre les deux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons et les anges. Je suis content qu'il y en ait que ça fait sourire, mais je crains que vous ne souriez qu'à cause de la ligne homme-femme. Mais dire que les animaux sont supérieurs aux plantes, c'est tout aussi con. Il faudrait arrêter, à chaque fois qu'on trouve une différence entre deux formes, de les classer selon un ordre d'une hiérarchie divine. Ça commence à bien faire. Et évidemment, tant qu'on le fera dans la nature, on le fera dans l'espèce humaine. Et réciproquement, c'est un défaut terrible de notre société que de vouloir absolument mettre des inégalités là où il y a simplement des différences. Et bon, on pourra y revenir aussi si vous voulez. Sauver la biodiversité, il y a un type qui s'en est occupé, qui est bien connu, qui s'appelait Noé, le premier qui s'est occupé de ça. Et donc, à l'époque, la méthode était très simple. Puisque toutes les espèces étaient immuables, vous mettiez deux individus de chaque espèce dans un bateau, tout le monde était sauvé. Alors, ça ne dit pas comment on fait avec les poissons, etc. Mais de toute façon, maintenant, on sait que cette méthode ne marche pas, je vous préviens. Ça ne marche pas parce que si vous prenez juste un couple, évidemment, les descendants ils vont devoir se reproduire entre eux. Alors, indépendamment du fait que ce n'est pas très moral, ce n'est pas très bon sur le plan génétique, en réalité, parce que ça va faire beaucoup de consanguinité et votre espèce va finir par s'éteindre quand même. Donc, il faut plus de diversité que ça. Mais surtout, ce qu'il a fallu faire après ça, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, ça a été comprendre l'importance du fait qu'il y ait de la diversité dans les espèces et pas seulement de la diversité entre espèces. Alors, les espèces, en plus, évidemment, on présente ça comme des choses qui sont immuables et qui se comportent bien. Elles sont censées ne se reproduire qu'avec les membres de la même espèce. Bon, alors, ça ne marche pas toujours, je vous préviens. D'ailleurs, dans certains groupes, ça marche très, très mal. Je veux dire, chez les plantes, par exemple, la plupart des espèces de plantes peuvent se croiser avec l'espèce d'à côté. Bon, ceux-là, ils ont du mal quand même, mais ça donne probablement rien, mais bon, c'est pas... Voilà, donc l'espèce, comme toutes les autres catégories de la systématique, est une catégorie floue. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Voilà, au XVIIIe siècle, en même temps que tous ces débats scientifiques sur cette nouvelle manière de voir la biologie, ça s'appelle encore l'histoire naturelle, le mot biologie n'existe toujours pas, eh bien, il y a C'est le siècle des Lumières, et la vision de la nature va voir des débats s'ouvrir. En particulier, il y a des gens qui trouvaient que la nature était bonne. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau vous explique que la nature est bonne, et ce qui va avec, la nature humaine est bonne. La nature humaine, elle est bonne, et c'est la société qui corrompt l'homme, etc., etc. Nous, au Jardin des Plantes, on avait un naturaliste qui était très, très convaincu que la nature faisait tout pour que les humains soient heureux. Il explique, ça plairait beaucoup à Biocop, j'espère qu'il y a des fruits qui sont faits pour la bouche, comme la cerise et la fraise, d'autres qui sont faits pour la main, comme la pomme ou la pêche. Et puis, il ajoute que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, et que la citrouille étant plus grosse, faut être mangée avec les voisins. Donc, vous voyez, une vision d'un monde mais merveilleux où tout est fait pour que l'homme soit heureux. Bon, mais en même temps que Bernard, ça c'est Bernardin de Saint-Pierre, hein, qui a écrit Paul et Virginie, un roman dans lequel la nature bienveillante accueille des pauvres enfants malheureux, etc. Mais en même temps que lui, donc au XVIIIe siècle toujours, il y avait des partisans du progrès, et en particulier Buffon qui était le directeur du Jardin des Plantes pendant pratiquement tout le XVIIIe siècle, hein, et qui déteste la nature. C'est un grand naturaliste, mais il la déteste. Il écrit un texte tout à fait remarquable. Il parle de la nature sauvage. Il dit « Voyez ces plages désertes. » Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais « Ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. » Alors, il parle du haut. « Dans toutes les parties élevées des arbres, sans écorce et sans cime, courbées, rompues, tombant de vétusté, la nature qui partout ailleurs brille par sa jeunesse, paraît ici dans la décrépitude. » Oui, ça, c'est la nature où l'homme n'a jamais résidé. C'est la nature sauvage. Hein. Voilà, alors donc qu'elle n'offre qu'un espace encombré de traversées de vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Ça, c'est pour le haut. Dans le bas, dans toutes les parties basses, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Entre les marais infects qui occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, on trouve des espèces de landes avec des mauvaises herbes épineuses extrêmement désagréables. Voilà, ça, c'est la description de la nature sauvage. Et qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça s'arrange ? Eh bien, il faut que l'homme s'en occupe. Et l'homme, là-dedans, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit « La nature brute est hideuse et mourante ». Vous voyez cette phrase extraordinaire, hein, d'un grand naturaliste, du plus grand naturaliste français de l'époque. « C'est moi seul qui peux la rendre agréable. Les vivants, desséchons ces marais, animons ces eaux mortes, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts, etc. Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. » Oui, qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Buffon. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que l'homme aura tout démoli et aura remis les choses en place ? Eh bien, bientôt, au lieu du jonc du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée, etc. Donc, la vision de la nature de Buffon, c'est une vision où la nature sauvage est hideuse et mourante et où la bonne nature, c'est celle que les humains ont entièrement façonnée à leurs griffes. Et vous voyez que ce débat entre... D'un côté, les gens qui pensent que la nature est bonne, et de l'autre, celles qui pensent qu'elle est mauvaise. Ce débat, on le retrouve aujourd'hui tel quel, pratiquement. Quand vous avez les débats entre les tenants du progrès technologique à tout craint et les écolos, eh ben, on parle moins bien aujourd'hui, c'est tout. Le français est moins fleuri. Mais les débats sont exactement les mêmes, et les idées ne sont pas plus avancées. Et c'est ça qui est quand même assez terrible, de voir que tout compte fait, eh ben, dans deux siècles, on n'a absolument pas progressé sur ces questions. Alors, je veux là remercier d'ailleurs les responsables du Salon Prime Vert d'avoir abandonné l'idée d'inviter un transhumaniste à venir exposer ses idées, ce qui me semble effectivement pas avoir été une très bonne idée au départ. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu comprendre ? Après, il a fallu comprendre d'abord que les espèces, tout compte fait, elles n'étaient pas éternelles. Donc ça, c'est Cuvier qui le découvre. Hein, il découvre des machins comme ça et il dit... Une fois qu'il a trouvé qu'il y avait eu des animaux qui ressemblaient à ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là, c'est le mammouth du Jardin des Plantes. Hein. Vous avez la tête d'un monsieur en bas, là, l'échelle, là, c'est vraiment très, très grand. Cuvier, il dit, écoutez, ce n'est pas possible qu'il y ait des trucs comme ça et qu'on ne les ait jamais vus. Hein. Donc, il n'y en a plus. Donc, ils se sont éteints. Cuvier, la grande découverte de Cuvier, c'est que les espèces s'éteignent. Ça a l'air de rien, mais il fallait le découvrir. Et ensuite, il a fallu comprendre que non seulement les espèces s'éteignent, mais qu'en plus, elles se transforment. Et ça... Ça a été le travail de Darwin. Donc, Darwin qui va fonder la biologie, la vraie science de biologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, tout compte fait, il n'y a que 150 ans que la biologie est devenue une science et que cette science repose sur la théorie de Darwin qui nous dit que c'est la sélection naturelle qui explique l'évolution des êtres vivants et leur émergence. Alors la sélection naturelle, je voudrais quand même vous en dire un tout petit mot parce que c'est un phénomène qui n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Elle vient du fait que les individus se reproduisent. Alors ça déjà c'est un vrai problème. En français on dit que les individus se reproduisent. C'est complètement idiot. J'espère que vous êtes conscient, si vous êtes parent, que vous ne vous êtes pas reproduit. Je suis sûr que vos enfants vous l'ont montré. Hein. Ce n'est pas vous. Hein. Et si vous êtes plus jeune, faites gaffe. Voilà. Donc, les individus ne se reproduisent pas. Ils reproduisent quelque chose et on ne sait pas trop quoi à l'époque. Mais ce qu'on sait, c'est que dans cette reproduction, il y a une variation qui est créée. C'est-à-dire que les individus, les descendants ne sont pas tous pareils. D'une part, donc ça c'est un premier point. Et deuxièmement, qu'il y a une certaine hérédité de ces variations. Donc il y a une variation héritable. Et ça, c'est la caractéristique fondamentale de tout ce qui est vivant. Le vivant se caractérise par cette reproduction avec variation et hérédité. Et ça, ça va permettre quoi ? Eh bien, ça va permettre le fait que dans la nature, certains individus réussissent mieux que d'autres, que du coup, leurs caractéristiques vont mieux réussir que celles des individus qui réussissent moins bien, et que progressivement, les populations vont se transformer. Donc on sait bien, ça marche dans les élevages de plantes ou d'animaux. Si vous gardez les chiens qui courent le plus vite possible, eh bien, vous allez fabriquer des lévriers. Si vous cherchez des chiens méchants, vous allez fabriquer des rottweilers. Et si vous cherchez des chiens gentils, vous allez fabriquer des beagles. Voilà, donc vous pouvez effectivement changer des tas de choses simplement en sélectionnant. Mais simplement, il faut le faire de nombreuses fois. Il faut que le processus soit répété au cours du temps. Dans l'origine des espèces, Darwin va présenter sa théorie et il va la présenter sous la forme d'un diagramme qui est extrêmement important. Voilà, alors je suis vraiment désolé parce que déjà la projection n'est pas terrible et de toute façon ce n'est pas une image super sexy. Hein. C'est moins sexy que les photos du début et pourtant c'est ça qui est peut-être le point le plus essentiel qu'on puisse présenter sur la biodiversité. Je vais peut-être essayer de me lever. Voilà, je voudrais vous dire que qu'est-ce qui se passe dans ce schéma ? Bon, j'espère que vous devinerez ce que vous ne verrez pas. Donc on part, mettons, d'une forme A qui est ici. Et cette forme A, elle va donner... Alors à chaque instant, elle donne plein de petits descendants. Il y a plein de formes différentes qui arrivent. Tout le temps, il y a de la diversité qui se produit. Mais la plupart de ces formes vont s'éteindre. Celles qui ne s'éteindront pas, c'est celles qui sont sur les bords parce qu'elles sont moins en compétition les unes avec les autres. Et donc le résultat, c'est que ne vont rester de tous ces machins qui sont apparus là que les plus extrêmes. Et puis on recommence et on recommence, on recommence au cours du temps. De bas en haut, c'est le temps qui passe. De gauche à droite, c'est une différenciation écologique, si vous voulez. Donc progressivement, les lignées divergent. Et ça, c'est le point essentiel de la théorie de Darwin. C'est de dire que les lignées vivantes ont toujours tendance à diverger, mais que constamment, il y en a qui s'éteignent. Je voudrais vous dire que ce que je suis en train de vous dire là, pour moi, c'est le point le plus important de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, essayez de bien comprendre, tout diverge, mais il y en a qui s'éteignent. Et tout compte fait, c'est l'ensemble des extinctions et des divergences qui créent la biodiversité. La biodiversité, c'est ça, en fait. Je vais passer là-dessus. Non. Alors, la biodiversité, aujourd'hui, on la représente systématiquement sous forme d'arbres avec des drôles de têtes. Je voulais quand même vous présenter le schéma classique aujourd'hui. On sait qu'à partir d'une origine dont on ne sait rien, il y a eu un moment où tout le monde est parti d'un point qui est ici, hein, et que trois lignées sont parties, une vers les bactéries, une vers un truc qu'on ne connaissait pas, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a qu'une trentaine d'années qu'on les connaît, les archées, et le troisième vers les eucaryotes, qui sont ceux que vous préférez, puisque c'est nous, et puis c'est aussi les plantes et tout ça. Enfin, nous, on est des eucaryotes. On n'est pas que des eucaryotes, en fait, hein, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans votre corps, vous avez un certain nombre de cellules, et dans vos intestins, vous avez 10 fois plus de bactéries que vous avez de cellules dans votre corps. Donc en réalité, nous sommes chacun un écosystème. Ça va ? Nous sommes un écosystème avec plein de bactéries et quelques cellules à nous, 10 fois moins. Mais en tout cas, voilà, on a aujourd'hui une vision de la biodiversité comme ça, qui est une vision de l'histoire donc de ces différentes formes. On est en train de préciser toutes les branches de cet arbre qui vient en fait de l'arbre de Darwin, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien l'arbre de Darwin, mais appliqué à la réalité. On découvre des choses un peu surprenantes, par exemple que les champignons sont les frères des animaux, qui ne sont pas du tout du côté des plantes, ils sont du côté des animaux. Bon. On découvre plein de choses comme ça, on pourra discuter après si vous voulez. Mais ce schéma donc, que Darwin a fabriqué rend bien compte de tout ce qu'on trouve aujourd'hui quand on essaye de comprendre la biodiversité. Simplement, ça pose un problème, vous voyez, c'est que tous les phénomènes de différenciation sont continus. Donc en fait, vous partez avec deux lignées là, qui se séparent, il y en a plein qui s'éteignent. Et puis, eh bien, ces lignées, progressivement, elles vont devenir suffisamment différentes pour qu'un beau jour, vous les appeliez des variétés. Et puis quand elles seront encore plus différentes, vous les appellerez des espèces. Et encore plus différentes des genres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie précise, espèce, ou variété ou genre. Chaque lignée, progressivement, passe par le stade d'avoir été juste deux populations qui se ressemblent, et puis ensuite elles se ressemblent moins, alors on leur donne des noms différents, etc. Or ça, c'est très important, ça veut dire que l'espèce n'est pas une entité fabriquée comme ça, mais quelque chose qui se fabrique tout le temps. Et ça, c'est très embêtant, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne dans le secondaire. Hein, les enseignants, ils aiment que les choses soient simples. Alors, ils vous disent, voilà, les espèces, ça se reconnaît parce que les individus se reproduisent entre eux et pas avec les autres. Mais c'est pas vrai. Une espèce, c'est pas ça. Une espèce, c'est un rameau de l'arbre qui s'est suffisamment séparé pour qu'on ait envie de lui donner un nom. C'est tout. Voilà. Et évidemment, c'est moins clair que ce que... Alors, c'est plus compliqué à expliquer, je comprends. Darwin, d'ailleurs, dans son livre, insiste là-dessus. Il dit qu'on n'a pas pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces. Et qu'on n'a pas réussi davantage à tracer une ligne de démarcation entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées, ou même entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Vous voyez, la différence entre deux individus, entre deux variétés, entre deux sous-espèces ou entre deux espèces, c'est juste une question de dosage, c'est la même chose. Et donc, il dit, ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles. Il se rend compte très rapidement que ça, il ne va pas y arriver. Très rapidement, il écrit à un ami, je vous l'ai mis en anglais, mais je vais vous le traduire, « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Je suis content qu'il ait employé le mot bigote. Je crois qu'il y a effectivement quelque chose de religieux dans notre vision de l'espèce qui me semble assez dangereux parce que ça nous empêche de comprendre l'essence même de ce que c'est que la biodiversité. Je pense que notre vision fondée sur la genèse, notre vision fondée sur des espèces qui sont des entités bien séparées, eh bien c'est une vision qui est fausse scientifiquement, qui vient de notre imaginaire fondé sur la genèse. Qu'on soit religieux ou pas, ça ne change rien, on connaît tous la genèse. Hein. Et puis, qui du coup est complètement fausse, ça amène à faire des tas de choses idiotes. Par exemple, compter les espèces pour savoir s'il y a plus de diversité dans un groupe ou dans un autre. Il y a peut-être 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes. Mais ça ne vous dit rien sur la diversité des insectes par rapport aux plantes. Parce que les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils font une nouvelle espèce. Alors que les plantes, elles accumulent plein de diversité dans chaque espèce avant de commencer à fabriquer des sous-espèces. Le résultat, c'est que, si vous voulez, la même diversité est découpée en tranches très fines qui sont des espèces chez les insectes, alors que c'est découpé en grosses tranches chez les plantes. Si vous comptez le nombre de tranches, vous ne comptez pas la diversité. Donc ce genre de dessin qui est projeté assez souvent, n'en tenez pas compte, on s'en fout, ça ne vous dit rien du tout sur la diversité comparée des insectes et des plantes. Et quand on discute de diversité, vous tapez biodiversity sur le web et vous allez trouver des tas de trucs comme ça. Hein. L'espèce d'abord, hein, puis tout le reste derrière, tout un bazar. Et plein de gens s'imaginent que la biodiversité, c'est la diversité des espèces. Je pense que c'est très grave, et en particulier dans le monde de l'agriculture, je finirai là-dessus tout à l'heure. Comme je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, les espèces ne se conduisent pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. Alors quand je projetais cette image, de temps en temps, il y a des gens qui venaient me demander après, est-ce que ça donne quelque chose ? Alors je leur disais, non, ça donne sûrement rien. Alors ils disaient, bon, comment vous le savez ? Je dis, d'abord, on n'a jamais vu un hybride qui se baladait dans la savane, et puis ils sont un peu loin dans l'arbre quand même. Alors les gens me demandaient, mais il faut être loin combien dans l'arbre pour que ça ne marche plus ? Et en fait, j'avoue que je n'ai pas la réponse, et qu'en fait, j'en sais rien, et que tout compte fait, peut-être que des fois ça donne quelque chose, j'en sais rien. Vous savez, après, j'ai un peu travaillé sur les chevaux, les ânes et les zèbres. Vous arrivez à en faire des hybrides là-dedans. Hein. Ah, celui du milieu est très, très mignon. Hein. Voilà, et on dit que les mulets sont stériles, mais les mulets ne sont pas tous stériles. Hein. On ne les laisse pas se reproduire parce qu'on n'en a rien à foutre de descendants de mulets. Donc, tout compte fait, ce n'est pas aussi évident que ça. Et puis, il y a une quarantaine d'années, si on m'avait posé la même question entre les lions et les tigres, j'aurais dit que ça ne faisait pas d'hybride. Or, en fait, ça en fait. Et les lions, les tigres et les léopards nous font des tas d'hybrides. Et c'est drôle, quand on a eu les premiers hybrides entre tigres et lions, c'est arrivé que dans des zoos, hein, eh bien, tout le monde a dit, c'est là qu'on a vu l'aspect religieux, tout le monde a dit, oh, ils vont être stériles. Ils n'en savaient rien, c'était des bébés. Mais ils avaient dit que ça. Bon. Et puis voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça y est, ils ont fait des petits. Hein, donc, Donc, ils ne sont pas stériles du tout. Enfin, pas tous, en tout cas. Et puis, d'ailleurs, on a un bel exemple aussi qui est très connu en élevage. C'est les chèvres et les moutons. Vous pouvez faire un hybride entre chèvres et moutons. Or, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, en fait, j'avoue. En anglais, ça s'appelle GIP. C'est goat pour chèvre et sheep pour mouton. Ça fait GIP. Mais... J'ai deux EP, je suis désolé, je n'ai pas de photos, mais si vous cherchez sur le web, vous trouverez des très belles photos de GIP. Et donc, les chèvres et les moutons, c'est non seulement pas la même espèce, mais ce n'est pas le même genre. Hein, c'est des ovins et des caprins, on est loin dans la systématique. Mais n'empêche que ça fait encore des hybrides. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce discours sur les hybrides, on s'en fout. Les chèvres et les moutons, bien sûr qu'ils peuvent faire des hybrides et que certains sont fertiles, encore une fois, mais... C'est des espèces différentes, il n'y a pas de problème, on sait les reconnaître, etc., etc. Alors voilà, je voudrais insister sur ce premier point, c'est que ne vous laissez pas embarquer vers l'idée que les espèces sont des entités bien établies et qu'on peut regarder la biodiversité avec ça. Les espèces, c'est une manière de regarder les choses, mais c'est juste un angle, c'est un niveau de diversité. Et d'ailleurs, en réalité, il y a plein de problèmes avec ce concept d'espèce. Il y a entre autres les espèces en anneaux, je ne sais pas si... Là, par exemple, vous avez illustré... avec des goélands, donc vous avez le goéland brun et le goéland argenté, qui sont deux bonnes espèces. Ah oui, non, c'est idiot que je vous montre ça sur l'écran. Là, qui sont deux bonnes espèces entre l'Europe et l'Amérique, si vous voulez. Mais si vous prenez le goéland d'ici, bah, il peut se croiser avec ceux-là, qui peuvent 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 se croiser avec ceux-là, et ainsi de suite. Et du coup, le résultat, eh bien, c'est que vous avez deux espèces différentes, mais qui font un anneau et qui peuvent se retrouver, et qui se s'hybrident, mais via l'autre côté du pôle, vous voyez. Donc, en réalité, bien sûr, est-ce que c'est deux espèces ou pas, on s'en fout. On voit bien le processus. Les systématiciens, s'ils ne sont pas trompés, ils ont fabriqué toute une série de niveaux hiérarchiques pour classer la diversité. Il n'y a pas que l'espèce. Hein. Je vous ai parlé des variétés, des sous-espèces, des espèces. Mais après, il y a les super-espèces, les familles, les super-familles, les sous-ordres, les ordres, etc. Donc, il y a plein de niveaux de diversité. Et bon, je passe là-dessus. Oula, pardon. Je vais passer là sur la suite. Et je voudrais vous dire donc que si on veut comprendre tout ça, eh ben c'est pas la peine d'essayer de raffiner trop la classification elle-même. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'on est dans un processus évolutif qui bouge tout le temps. Or, la plupart des gens, en fait, admettent l'évolution, mais ils ont encore une vision de création dans la tête. Alors du coup, j'entends souvent des phrases qui sont des phrases qui s'appliquent bien à la création, mais on met le mot « évolution » à la place. Oui, vous prenez le mot créateur et vous l'enlevez, vous mettez le mot évolution. Ça donne l'évolution a créé les espèces. Vous voyez ? Pareil, c'était le créateur. Et alors encore pire, l'évolution a créé les espèces et à la fin, elle a fabriqué l'homme. Ah ben voilà. Hein. Alors je vous préviens, on n'est pas les derniers, mais alors pas du tout. Hein. La dernière espèce qu'on ait vue apparaître sur Terre, ce sont les moustiques du métro londonien. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, hein. C'est une nouvelle espèce, c'est tout. Alors donc voilà, il faut arrêter de voir... cette création hein, faite par l'évolution, il faut absolument arriver à voir les choses de façon dynamique, à voir qu'on est dans un mouvement perpétuel sur la biodiversité. Il faut comprendre que dans ce système-là, eh bien, ce qui maintient la biodiversité, c'est le fait que d'une part, des lignées s'éteignent et que d'autre part, d'autres se divergent. Or, c'est extrêmement important, l'extinction, en fait. Je sais pas si... Dans le dessin qui est là, vous les voyez mal, mais vous voyez, il y a plein de petits trucs qui s'éteignent tout le temps. En fait, il y a une centaine d'extinctions dans le dessin qui est là. Mais il faut comprendre que s'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas de biodiversité. Ça, ce n'est pas si facile que ça à comprendre. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Abézène, peut-être que certains de vous l'entendent de temps en temps à la radio, et qui a travaillé sur la mort cellulaire au départ. Et il a fait un très beau livre sur la mort programmée des cellules, et il a parlé de la sculpture du vivant. Pourquoi ? Parce que quand on est un embryon, les doigts de notre main sont collés, ils sont soudés. Et c'est les cellules qui meurent de façon programmée qui séparent nos doigts. Donc notre corps est sculpté par la mort de nos cellules. Eh bien, je voudrais que vous compreniez que la biodiversité est sculptée par l'extinction. S'il n'y avait pas d'extinction des formes intermédiaires, il n'y aurait pas des espèces différentes. Il y aurait tous les intermédiaires entre tous les êtres vivants. Ça ferait un espèce de magma compact au lieu de faire cette diversité que nous connaissons avec des formes bien différenciées. Donc l'extinction est un élément essentiel de la biodiversité. Il ne faut pas croire qu'elle n'en est que l'ennemi. Mais la biodiversité se maintient. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre de la biodiversité ? Bien oui, l'équilibre, il vient du fait que les extinctions sont constamment compensées par les divergences. Alors donc, c'est un équilibre, pas au sens d'un équilibre stable. Vous voyez, ce n'est pas l'équilibre d'un objet comme ça que je peux bouger un peu puis il revient à sa place. C'est même d'un équilibre comme ça. Vous voyez, ça, c'est un équilibre pas très stable, mais stable quand même. Hein. L'équilibre de la biodiversité, c'est un équilibre dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équilibre dynamique ? Ben, c'est l'équilibre d'un vélo. Un vélo, ça ne se maintient que parce que ça bouge. Si jamais vous regardez d'ailleurs cette image, c'est intéressant parce que, regardez-la bien, je suis sûr que vous savez que cet individu est en train de bouger. Alors que pourtant, la photo est parfaitement fixe. Vous le savez parce que s'il ne bougeait pas, évidemment, s'il ne bougeait pas vers l'avant, il bougerait vers le côté parce qu'il est en train de se casser la figure, quoi. Donc en fait, on peut calculer les forces qui vont faire qu'il va d'un côté ou de l'autre. Et si jamais, et c'est bien parce qu'il bouge qu'il se maintient, si jamais par hasard vous décidez de l'arrêter d'un coup, là vous allez voir le résultat, évidemment. Hein. C'est-à-dire que justement, un équilibre dynamique, c'est si vous l'arrêtez qu'il tombe. Alors on en connaît d'autres équilibres dynamiques. Hein. Un avion, c'est un équilibre dynamique. Un satellite autour d'une planète ou une planète autour d'une étoile, c'est des équilibres dynamiques. Ça ne se maintient que parce que ça bouge. Et un équilibre dynamique, ce n'est pas quelque chose en général qui tombe d'un coup. En général, on rentre dans une dynamique d'effondrement. Vous voyez, vous avez un avion qui décroche, et bien progressivement, il va décrocher. Vous avez un satellite qui ralentit, bien un jour ou l'autre, il va finir par tomber. Mais entre le moment où il a commencé à décrocher et le moment où il tombe, il y a longtemps, parce que tout le système dynamique est en train de se casser la figure. On en a d'ailleurs une perception intuitive de ça avec notre corps. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. Nous mangeons, nous excrétons, nous respirons, et c'est ça qui fait que nous sommes vivants. Vous ressentez ça. Si quelqu'un vous disait « Je tiens à toi, je t'aime profondément, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo », ben vous diriez « Non, 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 merci ». Effectivement, ça vous conserverait dans votre forme, mais ça ne vous conserverait pas dans votre être, et vous ne seriez plus ce que vous êtes. Eh bien, je voudrais que vous compreniez que pour la biodiversité, c'est la même chose. Là, vous commencez à me voir venir. Ne mettez pas la biodiversité au frigo. La biodiversité, pour exister, doit maintenir sa dynamique. Or, ce qu'on observe actuellement, c'est que la biodiversité est en dynamique d'effondrement. Ce n'est pas que les espèces s'éteignent, et c'est bien dommage parce qu'elles étaient très très bien toutes au départ. De toute façon, il n'était pas question qu'elles ne changent pas. Mais les extinctions ne sont plus compensées par des divergences. Et ça, pour plein de raisons dont on pourra discuter si vous voulez, mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Parce qu'il y a plus d'extinctions qu'avant, parce qu'on détruit plein de milieux. Je vous donnerai juste un exemple à la fin. Et parce que les possibilités de divergence qu'on donne aux formes vivantes ont considérablement diminué. Donc on essaye justement d'empêcher les choses de bouger. C'est la pire chose qu'on puisse faire pour la nature et pour la diversité. C'est tellement vrai que même les physiciens qui d'habitude ne comprennent rien à la biologie l'ont compris. Et Einstein a écrit « La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Donc voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait que si vous voulez comprendre la biodiversité, il faut la voir sous un angle évolutif et pas sous un angle que rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution, en particulier la biodiversité. Bon, je vais passer ça parce que ça serait trop long. Voilà, alors donc, la biodiversité, c'est ce schéma de mouvement constant hein, d'apparition et de divergence et d'extinction des formes. Et dans l'espèce, eh bien, le point de départ de la biodiversité, c'est le fait que les individus dans l'espèce ne sont pas tous les mêmes. Alors l'hérédité dans l'espèce, eh bien, c'est un truc compliqué. Je veux quand même vous en dire un tout petit mot parce que c'est un point important. Quand vous regardez donc, des individus, ils ne sont pas tous pareils et il y a des différences qui sont essentiellement dues à des différences génétiques. Par exemple, le fait de pouvoir mettre la langue en tuyau. Hein. Montrez à vos voisins si vous savez faire. Voilà. Vous pouvez la retourner aussi comme ça. Bon, vous pouvez la mettre en trèfle. Qui est-ce qui sait la mettre en trèfle ? Oh, il y en a sûrement dans cette salle-là. Ils n'osent pas le montrer. Bon, allez, tenez, je vous montre une photo. Voilà, ça donne ça. Et c'est des trucs, si vous n'avez pas le gène, vous ne le ferez pas. Hein. Si vous avez le gène, il faut un tout petit peu d'entraînement, mais si vous n'avez pas le gène, vous n'y arriverez jamais. Bon, voilà, il y a des gènes qui font ça. Il y a d'autres variations, d'autres aspects de la diversité dans les espèces qui sont dus à l'environnement et pas aux gènes. Par exemple, le fait de parler bien anglais, eh ben, ce n'est pas génétique. En général, les gens qui parlent bien anglais, c'est ceux qui sont nés en Angleterre. Voilà, ils parlent mieux que ceux qui sont nés... Voilà. C'est pas compliqué. Donc, ça, c'est pas génétique. Bon. Mais, je voudrais insister là-dessus, hein, il y a des tas de cas, dans presque tous les cas, il y a les gènes et l'environnement qui jouent tous les deux. Et le point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est sur le fait qu'en changeant l'environnement, on peut changer les effets des gènes. Hein, alors, j'ai plein d'exemples à vous donner. L'exemple de la galactosémie, c'est un exemple bien connu. Hein, il y a un gène de la galactosémie, quand un bébé qui est galactosémique boit du lait, il s'empoisonne avec le lactose et ça le tue. Dans notre pays, ça n'arrive plus. Parce que quand un bébé naît, on teste sa capacité à digérer le lactose tout de suite en lui faisant une prise de sang. S'il ne peut pas digérer le lait, on le dit aux parents et on donne une nourriture de substitution sans lactose et l'enfant se porte très bien. Voilà. Évidemment, donc, aujourd'hui, l'environnement a changé. Du coup, il n'y a plus d'effet de ce gène. Ce gène, on s'en fout complètement chez nous. Mais ce gène, il continue à tuer les enfants en Afrique. Donc, en réalité, vous voyez que maintenant, l'environnement joue un très grand rôle dans cette maladie puisque l'environnement fait que les individus en question meurent en Afrique, alors qu'il ne le fait pas mourir ici. Bon, vous avez l'obésité, c'est la même chose. Hein. Les gènes d'obésité qu'on trouve aujourd'hui, c'est des gènes qui ont tendance à rendre les gens obèses aujourd'hui, mais qui ne rendaient pas les gens obèses il y a 100 ans. Parce que le milieu n'était pas le même, et que dans l'environnement d'aujourd'hui, ça fait des maladies, et ça rend les gens obèses, alors que dans l'environnement d'il y a 100 ans, ça ne posait pas de problème. Donc je passe là-dessus. Ouais, non, je crois que je vais vous passer ça. Voilà, je voudrais vous dire que ces histoires de gènes ont eu une importance très grande parce que la perception, ce qui s'est passé au début du XXe siècle, il y a eu une espèce de folie qui s'est prise de tous les gens qui s'occupaient de biologie et qui se sont dit qu'il fallait absolument améliorer tout ce qui traînait sur Terre. On finira avec les plantes, mais là, on va parler un peu des humains pour commencer. Première idée, améliorer les humains grâce à une nouvelle science qui s'est appelée l'eugénique. L'eugénique s'est développée aux États-Unis, mais aussi dans les pays scandinaves, en Suisse. Et on a cherché à comprendre pourquoi certains individus faisaient des choses pas bien en convoquant toutes les sciences possibles, vous voyez. Alors, j'aime bien parce que, vous voyez, c'est la prise en main de l'évolution humaine, l'eugénique, et c'est la convergence de toutes les sciences. Vous voyez, la médecine, la chirurgie, la religion, tout est convoqué pour améliorer l'espèce humaine. C'est intéressant parce que cette idée de convergence, vous la retrouvez dans les transhumanistes hein, qui vous parlent de la convergence NBIC aujourd'hui. L'idée qu'on va faire converger tous nos savoirs pour améliorer l'homme, ce n'est pas du tout nouveau. Et à chaque fois, ça a conduit à des horreurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'époque? On va chercher à comprendre pourquoi il y a des ratés. Alors, comment on fait? On va dans la rue, on prend les pauvres, on prend les gens en prison, on prend les gens dans les asiles psychiatriques. Enfin, à l'époque, ça s'appelait les asiles de fous. Et puis, on cherche leurs ancêtres et des fois, on trouve des choses extraordinaires. On trouve Adagio qui vit en 1740. Alors là, vous ne pouvez pas bien voir, mais on a retrouvé 92% de ses descendants. 66% sont des débiles mentaux. 24 sont des pervers sexuels. 196 sont des illégitimes. Alors, illégitime, ça veut dire né hors mariage. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. 142 sont des pauvres et 77 sont des criminels et meurtriers. Vous voyez que Adagio a fait une catastrophe pour la nation américaine. Il faudrait arrêter ça, et on va arrêter ça. Vous savez que l'eugénisme a donné naissance à des lois dans les années 1920, et en 1935, on en était déjà à 21 539 personnes stérilisées sur le territoire américain. Il y a eu des procès retentissants à des dames qui ne voulaient pas être stérilisées. La Cour suprême américaine a conclu 3 générations d'imbéciles, c'est assez, et hop, on les stérilise. 65 000 stérilisations quand même jusqu'au début du XXe siècle sur le territoire américain. Encore plus proportionnellement en Scandinavie, en Suisse aussi, et évidemment le pays champion du monde de ça, ça a été l'Allemagne. C'est un point important, il faut bien comprendre que cette espèce de folie occidentale qui a démarré donc au début du XXe siècle, l'Allemagne nazie n'a été qu'un extrême de ce mouvement. Mais c'est pas... En France, en histoire, on apprend le nazisme comme si c'était un machin comme ça qui est apparu, une verrue complètement autonome dans son système, là, à cause de la République de Weimar. Mais pas du tout. C'est l'aboutissement de tout un chemin intellectuel qui avait été fait par l'ensemble des nations occidentales. Bon, en France, on a complètement raté ce truc-là parce qu'à l'époque, on n'avait rien compris à la génétique. Ça nous a sauvés. Bon. Et donc, vous voyez que c'était l'idée qu'il fallait fabriquer des races pures. C'est la pureté de la race qui était importante. Et ça, on y croyait aussi en France, juste on essayait de le faire autrement. Mais l'idée de la race pure, elle a disparu, bon, je passe là-dessus, mais elle a disparu grâce à Nuremberg. À Nuremberg, on a affirmé que les atteintes à la dignité humaine étaient inadmissibles, quelles que soient les raisons, et que du coup, eh bien, même la recherche d'une race parfaite humaine n'expliquait plus, n'excusait plus le fait de commettre des crimes contre l'humanité. Ça a à peu près arrêté l'eugénisme, on pourra en reparler si ça vous intéresse, mais l'ennui, c'est que ça l'a arrêté pour les humains, mais pas pour les plantes et les animaux. Donc, les conneries de faire de la race pure chez les humains, on les a à peu près arrêtées, mais la connerie de faire des races pures chez les plantes et les animaux, malheureusement, on a continué. Alors, c'est dommage, c'est d'autant plus dommage que tout compte fait, il y avait un grand généticien russe qui avait montré que les plantes étaient issues, qui s'appelle Nikolaï Vavilov, il avait montré que toutes les plantes étaient issues de centres d'origine et s'étaient diversifiées avec le temps, et que l'agriculture, par le fait qu'on ressemait chaque année les semences et que chaque agriculteur pouvait sélectionner dans les milieux de son champ, faire de la diversité grâce à ça, et bien que l'agriculture avait fabriqué une immense diversité des plantes cultivées. Il a commencé à les collecter et tout. Malheureusement, ça ne lui a pas porté chance parce que dans le système soviétique, il s'est passé le contraire de ce qui s'est passé chez nous. Alors que chez nous, on disait que les gènes expliquaient qu'il y ait des ratés et que du coup, on a stérilisé les ratés. Dans le système soviétique, on a dit que les généticiens prétendent que les gens ne sont pas tous pareils. C'est très, très mal. Et hop, tous les généticiens sont partis en prison. Et on a tué tous les généticiens soviétiques. Vavilov est mort en prison. Il est mort de faim en 1943 dans la prison de Saratov. Le point sur lequel je voudrais insister, donc eux, ils n'ont pas fait d'eugénisme, mais ils ont cherché l'homme nouveau, mais par des voies sociales, ça n'a pas été vraiment mieux. Le point important que je voudrais vous dire sur l'eugénisme, c'est que tous les scientifiques de l'époque étaient eugénistes. Absolument tous. Et alors ça va depuis Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, jusqu'au grand statisticien Pearson, etc. Tous les scientifiques de l'époque ont défendu l'eugénisme. Ça prouve que la communauté scientifique, quand elle part sur une idéologie débile, est parfaitement capable de se planter globalement. Et donc, faites attention à ça, parce que c'est embêtant. Je suis un scientifique et je me rends compte que ma communauté est capable de faire des trucs gravissimes si jamais ils se trompent d'objectif. Et l'objectif qui était poursuivi par tout le monde à cette époque de l'eugénisme, c'était le progrès. Il fallait faire progresser l'humanité. Le progrès est devenu une sorte de religion dans nos sociétés, une religion en particulier dans les milieux scientifiques. Et plus pour être haut placé dans la hiérarchie scientifique, il faut être un grand prêtre du progrès. Vous n'aurez à l'Académie des sciences quasiment que des intégristes, hein, du coup. Et le résultat, c'est qu'effectivement, sur des tas de débats, ça pose des problèmes. Il y a quelques années, le président de la République, c'était en 2004, je crois, a voulu annexer à la Constitution de la France la Charte de l'environnement. Et dans cette Charte de l'environnement, il y avait le principe de précaution, hein, qui est un principe qui dit qu'en face d'une incertitude liée à un risque important et irréversible concernant la santé humaine ou l'environnement, il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves du risque pour commencer à prendre des mesures. Et que la première mesure à prendre, c'est d'augmenter les recherches pour essayer de lever l'incertitude, parce que c'est en face d'une incertitude. La chose extraordinaire qui s'est passée à ce moment-là, c'est que tous les émissaires de la science française sont allés assiéger l'Élysée pour demander à ce qu'on ne fasse pas ça. Un principe de précaution qui demandait juste qu'on fasse attention quand il y a des incertitudes et qu'on augmente la recherche a été critiqué par toutes les instances de la science, c'est-à-dire l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, tout. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des débats, j'ai eu la chance d'être invité à ces débats à l'époque. Moi, je défendais le principe de précaution. Et ce qui était très intéressant, c'est que les émissaires en question n'avaient qu'un seul argument. C'était « ça va freiner le progrès ». Il ne faut pas freiner le progrès. Ça, c'est très, très mal. Hein. Alors là, vraiment, ne faites pas ça. Et donc, évidemment, quand on commençait à leur dire « mais enfin, quel progrès ? Discutons un peu de… peut-être qu'il y a plusieurs progrès possibles, et puis peut-être que le fait de prendre des précautions, c'est un progrès aussi. » Ah non, ça, c'était inaudible. Le progrès, c'était le progrès technique maximal. Évidemment, ça tenait pas très fort. Ils n'ont pas réussi à empêcher qu'on mette le principe de précaution quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est fait. Mais aujourd'hui, donc, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la production de plantes, eh bien, le progrès, vous le savez, c'est de faire des plantes transgéniques. Hein, parce que ça, c'est le progrès. Bon. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est vachement bien de faire des plantes transgéniques. Ça, c'est une page du site de Monsanto. Et vous voyez, un agriculteur heureux. Il est heureux parce qu'il cultive du maïs Monsanto. Alors, il n'a pas de problème, hein, parce que si jamais il y a des mauvaises herbes, oh, il fout du Roundup et ces mauvaises herbes, elles crèvent. S'il y a des insectes qui attaquent son maïs, alors les mauvaises herbes crèvent, mais pas son maïs, parce que son maïs transgénique résiste au Roundup. Hein. Et s'il y a des insectes qui attaquent le maïs, il est transgénique et il produit des poisons qui tuent les insectes qu'il mange. Donc, il est vraiment heureux. Alors, c'est vrai que Monsanto, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien, parce qu'ils ont tous les défauts. Bon. Du coup, ils cachent un peu le fait que les autres ne sont pas tellement mieux. Mais il faut avouer qu'ils ont quand même bien commencé. Hein. Vous savez comment ils ont commencé ? Ils ont commencé en fabriquant un défoliant qui s'appelait l'agent orange, qu'ils ont vendu à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, parce que les soldats américains se plaignaient que les Vietnamiens se cachaient sous les feuilles. Alors, Monsanto a dit, on va vous vendre du défoliant, ça fait tomber les feuilles, comme ça sera bon, puis en plus, ils n'auront plus rien à bouffer, ça devrait aider. Ça, c'est l'armée américaine en train de dépendre de l'agent orange sur les champs vietnamiens. Et je ne sais pas si vous connaissez tous le résultat sur les enfants qui sont nés après exposition à ce produit, mais c'est ça. Et Monsanto a réussi à ne jamais être condamné pour ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui naissent avec ce genre de malformation parce que la rémanence du produit dans les sols est terrible et que ça continue à faire des effets. Mais Monsanto a toujours réussi à échapper au procès. Donc je crois qu'il y a une marche contre Monsanto très bientôt, là. Ouais. Allez-y. Hein, bon. Voilà. Mais aujourd'hui... Non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, Monsanto? Ben, ils vendent des produits transgéniques. Et même, ils font plus que ça. Ça, d'ailleurs, ça m'a un peu étonné. Ils font du soja transgénique en grande quantité. On va y revenir. Et ce soja transgénique, il sert à quoi? À vendre du Roundup, parce qu'il est résistant au Roundup. Et donc, on vend le soja transgénique avec le Roundup et avec les résistances aux insectes, etc. Et quand les gens ont commencé à s'inquiéter de ça, et à dire qu'ils n'avaient pas envie de manger des OGM, ça date vraiment de la fin du XXe siècle, le mouvement anti-OGM. Hein. Moi, j'ai commencé à faire des recherches sur les conséquences de la culture d'OGM dans les années 80. Tout le monde s'en foutait. Hein. C'est à partir des années 98 que ça commence à bouger, 96-98. Les scientifiques, quand les citoyens se sont inquiétés, les scientifiques ont fait d'ailleurs comme avec l'eugénisme, ils ont dit « mais c'est idiot, vous inquiétez pas, tout va bien hein. ». Et les scientifiques ont répondu qu'il n'y avait pas de problème, hein, que les OGM posaient aucun problème. Or, c'est absolument pas vrai. Les OGM posent des tas de problèmes. Je voudrais vous dire que ce cas montré va... Alors, ça pose des problèmes de santé, et je ne reviendrai pas dessus. Si vous voulez, on en discutera, mais je ne reviendrai pas dessus. Je suis sûr que vous en avez déjà tous entendu parler. Le problème qui me semble le plus grave... Il vient du fait que, comme je vous l'ai dit, Vavilov a montré que l'agriculture avait fabriqué de la diversité grâce à ce processus que vous voyez là au tableau. Chaque agriculteur, vous voyez, c'est une petite lignée. Chaque agriculteur ressème ses semences et du coup, à chaque génération, ses semences deviennent un peu différentes de celles des autres et ça fabrique de la diversité. Et puis, de temps en temps, il y a un champ qui merde et puis s'éteint. C'est pas grave, on va redemander des semences au voisin, on va recommencer, etc., etc. Voilà comment marche la biodiversité en général et comment marche la biodiversité des plantes cultivées jusqu'au début du XXe siècle. Parce qu'au début du XXe siècle, il s'est passé un truc tout à fait curieux et qu'au fond, je pense que personne n'a vu les conséquences de ça. Au début du XXe siècle, les agriculteurs ont décidé que c'était peut-être pas la peine de s'emmerder tous à faire des semences et qu'il y en avait certains qui allaient faire des semences et d'autres qui allaient semer les semences produites par les premiers. C'est fabriqué une nouvelle catégorie d'agriculteurs, les semenciers. Et les semenciers... Ce qu'on fait, c'est chez eux que toute la biodiversité des plantes cultivées réside. Parce que les seules plantes qui se reproduisent, c'est celles qui sont chez les semenciers. Si vous regardez les champs non bio, non semences paysannes plus exactement autour de chez vous, vous pouvez voir plein de plantes. Et ben, ces plantes, elles sont toutes mortes génétiquement. Parce qu'à la fin, elles vont être récoltées et elles vont être exploitées. On n'en regardera pas une seule graine. Si jamais dans ce système-là est apparue par hasard, par mutation, une plante extraordinaire qui résiste vachement bien à des maladies, etc., ça n'aura aucun impact parce que si jamais c'est du blé, ben elle passera chez le meunier. Si jamais c'est un légume, on le bouffera. On ne garde rien des champs de production. Il n'y a que les semenciers qui gardent la diversité qu'il y a dans leurs champs. Or, la diversité des champs des semenciers, ben c'est beaucoup moins que la diversité de tous les champs, de tous les agriculteurs, bien sûr, parce qu'ils sont beaucoup, c'est presque rien. Hein. Et c'est d'autant plus presque rien que le nombre de semenciers s'est réduit progressivement au cours du XXe siècle. Parce que les grosses boîtes rachetaient les petites boîtes de semences. Et donc, aujourd'hui, la diversité des produits semenciers est devenue très, très faible. Or, ça devient encore pire avec les OGM. Parce que les semenciers sont devenus un lobby très, très puissant. Extrêmement puissant en France. Hein, mais extrêmement puissant au niveau mondial. Et pourquoi ? Et donc, le but des semenciers, évidemment, c'est qu'on achète leurs semences. Donc, c'est que les agriculteurs ne ressèment pas leurs semences. Ils ont réussi des coûts extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez... cette taxe merveilleuse que doivent payer les agriculteurs qui ressèment leurs semences. Elle a un nom déjà surréaliste. Ça s'appelle la contribution volontaire obligatoire. Contribution volontaire obligatoire. Pourquoi ? Parce que si je suis un agriculteur et que je ressème mes semences, eh bien on a réussi à faire croire aux députés que si je fais ça, je ne contribue pas au progrès. Que ceux qui contribuent au progrès, c'est les boîtes de biotech. Et que donc, comme je ne contribue pas au progrès, il faut que je paye une contribution au progrès. Et moi, agriculteur bio qui veut ressemer mes semences, je vais devoir payer... une taxe pour Monsanto pour qu'ils puissent continuer à faire leur saloperie. Voilà ce qui s'est fait. Et si vous regardez le débat parlementaire qu'il y a eu sur cette loi, il ressemble absolument au truc de Buffon de tout à l'heure. C'est-à-dire que les partisans de la loi en question étaient là, oui, le progrès, c'est bien, vous êtes des dangereux passéistes, ceux qui veulent que les agriculteurs ressèment leurs semences, vous n'avez rien compris, vous voulez revenir à l'agriculture du néolithique, etc., etc. Et effectivement, le but, c'est bien. Pourquoi faire des OGM ? Je vais vous expliquer. Les OGM, ça sert à une seule chose, c'est à breveter les gènes. Ça sert qu'à ça. Mais alors ça, c'est vachement efficace. Il y a eu un procès au tournant du 20e, 21e siècle, qui a été remarquable. Ce monsieur, il s'appelle Percy Schmeiser, et il avait décidé qu'il cultiverait ses colzas. Il est au Canada, en Saskatchewan. Il avait décidé que tous les ans, il ressèmerait ses graines de colza à lui, qu'il ne voulait pas acheter les graines Monsanto comme ses voisins. Bon, tous les ans, il les ressemait. Sauf que tous ses voisins cultivaient du colza Monsanto. Et que le pollen et les graines de colza, ça se balade. Et comme Tchernobyl, ça ne s'arrête pas au bord des champs. Et ça, lui, il le savait, et Monsanto aussi. Donc, quand il récoltait ses graines sur ses plantes, dedans, il y avait des gènes qui venaient des colzas Monsanto du voisin. Bon, lui, il était gentil, il n'allait pas porter plainte parce que Monsanto lui avait pollué ses plantes. Il a eu tort, peut-être qu'il aurait dû le faire tout de suite. Parce que ce qui s'est passé, c'est le contraire. Monsanto est venu prélever des graines sur ses champs, les a analysées, et a dit, mais il y a nos gènes brevetés dans vos graines. Vous n'avez plus le droit de les cultiver, et vous nous devez 400 000 dollars de dommages et intérêts. C'est allé jusqu'à la Cour suprême canadienne, et il n'a pas payé les 400 000 dollars parce qu'il n'utilisait pas le Roundup sur ses champs. Donc le brevet des gènes, il ne s'en servait pas. Mais n'empêche qu'ils ont gagné sur le poids essentiel. Il n'a plus le droit de semer ses semences. Donc vous voyez, le principe, c'est simple. Alors chez le maïs, c'est pareil. Maintenant, on sait que chez les maïs mexicains, on trouve des transgènes nord-américains. Grâce au brevet, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire une guerre sans merci sur les semences. Vous mettez des gènes brevetés dans une plante, vous laissez le vent emmener votre pollen chez les voisins, et la graine du voisin est à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir posséder toute l'espèce cultivée grâce à mes brevets. C'est pour ça que les boîtes de biotech se donnent tellement de mal à faire des OGM actuellement. C'est que l'enjeu, c'est de posséder toute la nourriture de la planète. Je vous conseille conscient de ça. Peut-être que ça rend malade, hein, je le pense aussi, mais le pire, c'est surtout ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette optique de folie, on va homogénéiser totalement. Alors vous savez que le rêve de l'agronome moderne, hein, c'est une agriculture de plus en plus homogénéisante, hein, voilà, des trucs comme ça. Et évidemment, plus on homogénéise, plus il faut traiter, donc tant mieux, ça fait tourner le commerce des boîtes de biotech. Et puis, voilà, on va traiter en avion. Vous voyez, ça, c'est des champs sud-américains. Voilà, c'est ça l'agriculture sud-américaine aujourd'hui. Le même génotype sur des millions d'hectares avec des traitements par avion, etc., etc. Or, évidemment, si jamais vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous homogénéisez terriblement toutes les plantes qu'il y a dans la biodiversité des plantes cultivées. C'est terminé. C'est la même plante cultivée sur d'immenses surfaces. C'est super dangereux. Vous inquiétez pas. Ils y ont pensé. De grands altruistes, comme par exemple Bill Gates. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Bill Gates est le premier actionnaire de Monsanto. Vous êtes chier. Se sont préoccupés de conserver la diversité des plantes cultivées. Comment ils font? Un frigo. Eh oui. Voilà, la biodiversité au frigo. Hein, on retourne à ce que je vous ai dit au début. Donc, ils ont fabriqué un immense frigo souterrain sur une île déserte au Svalbard, là-bas en Norvège, une île où il fait très très froid tout le temps, même avec le changement climatique, ça devrait rester gelé. Et là-dedans, on est en train de mettre toutes les semences de la planète. C'est génial, non? Ne vous inquiétez pas, vous voyez, la biodiversité est sauvée, elle est dans un frigo. Bon, évidemment, des graines dans un frigo, au bout d'un moment, ça ne germe plus. Au bout d'une dizaine d'années, ça commence à plus bien marcher. Les vraies banques de graines, tous les 10 ans, on ressort les graines, on les plante, on fait sortir les plantes, on ressème les graines, etc. Quand ils ont fait ça, je leur ai demandé, mais vous allez faire comment pour ressemer les graines, les bananiers au Svalbard, ça ne devrait pas être terrible et tout. Et ils m'ont répondu, oh non, ça on ne le fait pas. Donc les graines, c'est génial parce qu'on est en train de fabriquer. Alors une arche de Noé, vous voyez que c'est l'image de l'arche de Noé, etc. On est en train de retomber sur toute la mythologie de la Genèse, etc. Mais en réalité, cette arche de Noé, en plus, c'est un cimetière. C'est-à-dire qu'on va avoir mis dans un immense frigo souterrain des graines mortes en quantité. Ah, ben ça sert à rien, ça. Mais si, ça sert à quelque chose. Parce que dans les graines mortes, qu'est-ce qu'il y a? De l'ADN. Et qui sait sortir l'ADN des graines pour faire des OGM? Monsanto. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. On nettoie toute la diversité de la surface de la planète, on la garde sous forme d'ADN dans un frigo. Si un jour il y a une grosse merde, ça va être très très dur. Parce que, imaginez, vous voyez qu'une maladie s'amuse à décimer nos cultures qui sont devenues trop homogènes. Il faudra vite aller chercher un gène de résistance dans les graines mortes, ce qui ne va pas être simple. Parce que pour trouver la résistance, il va falloir les ressusciter, les graines. Mais ça, on fait de la biologie synthétique pour ça. La biologie synthétique, ça permettra de ressusciter les graines mortes. On n'est pas encore tout à fait capable, mais on va y arriver. Bon. Et puis, une fois qu'on aura trouvé le gène, eh ben, on n'aura plus qu'à faire des OGM pour remettre le gène dans les autres plantes. Puis comme ça, tout le monde aura la même gène de résistance et toutes les plantes résisteront jusqu'au jour où il y aura une autre maladie et il faudra recommencer. À chaque fois, ça coûtera super cher Et pendant tout ce temps-là, on n'aura rien eu à bouffer. Mais ce n'est pas grave, au moins, ça coûtera super cher, mais ça rapportera beaucoup à ceux qui font les plantes résistantes, c'est-à-dire justement ceux qui font tout ça. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est en train, du fait du prétendu progrès technologique, d'homogénéiser tout ce qui est culture. Et vous voyez, la biodiversité, je pense, c'est un problème compliqué. C'est une dynamique. Il faut arriver à comprendre comment ça marche et arriver à voir comment maintenir la biodiversité dans les forêts, dans les milieux naturels. C'est compliqué. Mais dans les champs, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Il faudrait remettre en œuvre des processus où les agriculteurs soient impliqués dans la reproduction de leurs semences. Il faut absolument que les agriculteurs reprennent en main la production de la diversité des semences. Et c'est tout un travail pour eux parce qu'effectivement, c'est plus compliqué que de simplement acheter la semence chez le semencier. Il n'y a pas de doute. Mais si on ne remet pas ça en place et si on n'aide pas les agriculteurs à faire ça, eh bien, évidemment qu'à force de nettoyer tout, on va créer d'immenses catastrophes et que du coup, le résultat, ça va être qu'il y aura des famines qui seront de notre faute parce que nous aurons laissé perdre cette diversité. Donc, je pense que c'est très important que des paysans reprennent en main leurs semences. C'est très important que les entreprises qui s'occupent de produire de l'alimentation à partir de l'agriculture ou de vendre des légumes s'intéresse à la diversité parce qu'effectivement, cette diversité, c'est notre assurance de vie pour l'avenir. Il est essentiel qu'on remette de la diversité en route. Il est essentiel qu'on reprenne les idées de Vavilov et qu'on refasse fonctionner ce système qui produit de la diversité dans les milieux agricoles. Et je voudrais vous dire que, vous voyez, la biodiversité, je vous l'ai dit, c'est comme un vélo. Eh bien, ce vélo, si vous voulez tenir dessus, eh bien, je vous conseille vraiment, l'arrêtez pas. Il ne faut pas arrêter la biodiversité, sinon, eh bien, ça risque de nous coûter vraiment cher. Et donc, je voudrais insister sur ce point. Je pense que c'est l'affaire de tous de maintenir de la biodiversité. Je vais vous dire qu'Amas, je croyais avoir une diapo que je n'ai pas là. Bon, bah, tant pis. Si elle doit être plus loin. Je voulais finir, voilà, en vous disant, en rendant un petit hommage à Sharp qui m'avait fait ce dessin-là un jour où j'expliquais comment les scientifiques avaient fait des conneries. Voilà, je pense que faites attention, même si les scientifiques vous disent qu'il faut faire des belles cultures d'OGM, que ça sauvera le monde, ne les croyez pas. Maintenant, on peut en discuter. Voilà, merci.
Oui, Jean-Claude Chenu, je suis un militant de base de la FRAPNA depuis 40 ans. Tout récemment, des membres d'un haut comité des technologies sont sortis de ce comité pour protester par rapport à des nouvelles technologies biologiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Est-ce que vous êtes au courant ? Ça date de 2-3 jours.
Oui, non, je ne vais pas vous faire un cours de biologie moléculaire, ça serait un peu l'enfer, mais effectivement, il y a... En fait, je pense que tout ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de nouvelles technologies qui ne sont pas strictement les technologies OGM, c'est-à-dire du transfert d'ADN d'une forme à une autre, mais qui, très sincèrement, pour moi, le point important, c'est de savoir si jamais c'est breveté ou pas. À partir du moment où on brevette des morceaux de génome, et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, le grand jeu de toutes les boîtes qui s'occupent de ça, c'est de breveter. Donc, leur grand jeu, c'est de breveter tout ce qu'ils peuvent. Et ce qu'ils sont en train de chercher, c'est des techniques qui peuvent breveter, mais dont ils vont dire que ce n'est pas des OGM. Comme ça, ça ne passera pas par les systèmes d'évaluation. Et moi, pour moi, effectivement, si, tant que c'est breveté, c'est que c'est un OGM, parce que OGM, ça voulait dire au départ organisme génétiquement manipulé. On n'a pas le droit de breveter une découverte, on a le droit de breveter qu'une invention. D'accord ? Donc vous n'avez pas le droit de breveter un gène, parce qu'un gène, c'est juste une découverte. Vous avez le droit de breveter une invention. L'invention, c'est de dire... Alors, c'est là qu'ils ont joué sur les mots au début... Les offices américains et européens des brevets ont refusé les brevets sur les gènes. Mais ils ont fini par céder. Et le truc, ça a été de dire, je ne brevette pas le gène, je brevette l'idée d'introduire le gène dans la plante. Et ça, c'est une idée, donc c'est une invention, donc c'est brevetable. Bon, passons. Aujourd'hui, ils essayent de breveter carrément des gènes natifs, mais au prétexte qu'ils les ont découverts grâce à des techniques compliquées. Ou alors de breveter le fait d'avoir modifié des séquences d'ADN dans la plante ou dans l'animal sans avoir introduit vraiment un ADN qui venait de l'extérieur. Dans la réalité, d'ailleurs, ils en introduisent quand même un petit peu. Donc, tout ça, c'est des nouvelles techniques qui permettent de modifier le génome et qui donnent naissance à des brevets. Et effectivement, je pense qu'il serait logique de dire tout ce qui est breveté, puisque c'est une invention, ça veut dire qu'il y a une manipulation, donc ça doit être considéré comme un OGM. Mais évidemment, le grand truc des boîtes de biotech, c'est de dire que non, ce n'est pas des OGM et d'essayer de se passer du système de contrôle. Ajoutons à ça qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui se prépare avec les accords transatlantiques TAFTA, TIPP, etc. Et qu'évidemment, dans ce cadre-là, je suis certain que les boîtes de biotech américaines espèrent bien pouvoir arriver à faire sauter tous les verrous européens sur ces questions.
Vous nous avez projeté tout à l'heure le diagramme de Darwin, qu'on n'a pas bien vu, bien sûr. Donc, je voudrais juste signaler que ce diagramme de Darwin est très bien expliqué dans une vidéo sur le site de universcience.tv, qui est donc la plateforme TV de la Cité des sciences et de l'industrie. Et il est expliqué dans une petite vidéo d'une dizaine de minutes, et c'est vraiment très clair. Et on le voit bien, bien sûr, c'est une sur Internet.
De toute façon, vous tapez diagramme Darwin sur Internet et vous tomberez dessus tout de suite. Hein, y a pas de problème. Dans votre moteur de recherche préféré, qui doit être Quant, je suppose. Mais bon.
Puisque vous parliez de brevets, je vais avoir deux points. D'une part, vous parliez de ce procès d'un agriculteur canadien qui avait planté à côté d'un champ Monsanto. Je voudrais savoir si en France, quelle est la législation en France ? Est-ce que ce même type de procès pourrait donner les mêmes conséquences ? Et d'autre part, une question, un brevet tombe normalement dans le domaine public au bout de 10 ans, donc qu'est-ce qui se passe est-ce que je pense que Monsanto a une vision à plus que 10 ans sur ses profits, donc qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans ?
Alors, premièrement, donc en France, effectivement, en Europe d'ailleurs, pour le moment, l'Europe a réussi à faire passer un texte qui dit qu'il y a ce qu'ils appellent un privilège de l'agriculteur et que les agriculteurs ont le droit de ressemer leurs semences. Moyennant le fait de payer quand même des taxes, hein, mais ils ont le droit. Donc en fait, pour le moment, ça ne marcherait pas en France ou en Europe. Encore une fois, j'attends de voir ce que TAFTA, TIPP et compagnie vont faire par rapport à ça. Parce que vous savez que ce qui est prévu dans ces types d'accords, c'est qu'une entreprise puisse attaquer les lois d'un État si jamais ces lois l'empêchent de réussir son commerce. Donc évidemment que si jamais un accord de ce genre-là est passé entre les États-Unis et l'Europe, et Monsanto s'empressera d'attaquer les lois européennes comme celle-là en disant « ça nous empêche de vendre nos semences ». Et comme ça sera des tribunaux privés qui régleront les conflits, je ne suis pas rassuré sur ce que ça donnera. Donc voilà, ça c'est pour ce qui se passe en France. Et votre deuxième question, mince, ça y est, j'ai oublié.
Sur ce qui se passe une fois que le brevet tombe dans le domaine public.
Alors le truc, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'en remettre des nouveaux. C'est-à-dire qu'ils remettent des gènes brevetés nouveaux constamment. En plus, si jamais vous avez... Il ne faudrait pas que vous ayez commencé à cultiver votre plante avant que le brevet soit tombé dans le domaine public. Donc, vous êtes quand même dans une situation délicate. Ouais.
D'abord, merci pour la conférence qui était très intéressante. Et assez drôle, d'ailleurs. C'était très intéressant. Je veux me lancer dans l'agriculture biologique dans quelques années. Et... On voit aujourd'hui les problèmes du gluten et tout ça dont on nous parle souvent et particulièrement à ce salon. À la base, les vieux blés et les anciens gluten ne sont pas dangereux pour l'être humain, d'après ce que j'ai compris. Et c'est la sélection en fait des blés qui aurait augmenté la quantité de gluten et qui serait dangereuse pour l'humain. Et est-ce qu'aujourd'hui en France, on a la possibilité justement de réobtenir d'anciennes semences de ces blés oubliés finalement.
Écoutez, là, il faut que vous contactiez les semences paysannes. Il y a un groupement français des semences paysannes. Vous les trouverez facilement sur le web. Et là, eux, ils ont redéveloppé effectivement des variétés. Et je pense que le point important, hein, c'est qu'ils sont repartis de variétés traditionnelles pour beaucoup, mais en fait, il n'y a pas de raison de ne pas mettre aussi des variétés modernes. Le truc que je trouve important, c'est de comprendre que les semences paysannes, ça sera vraiment un truc qui marchera bien si jamais il y a suffisamment de monde qui le fait, d'abord, parce qu'il faut qu'il y ait des surfaces suffisantes pour que ça fasse de la diversité, et si jamais les agriculteurs en question sélectionnent de façon à garder, à avoir des variétés qui correspondent à leurs envies ou à leurs besoins et à l'écologie de leur champ, mais sans essayer de maintenir les choses anciennes. C'est pas le but. Le but, c'est pas de maintenir le truc d'avant. La biodiversité, c'est pas un truc qui se garde en se figeant, c'est un truc qui se garde en faisant de la dynamique. Donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans l'espace paysanne, c'est l'idée qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, on reprenne en main un fonctionnement dynamique des semences Et ça, je crois que c'est vraiment... Alors, il y a, non seulement il y a les semences paysannes, donc il y a ce réseau qui existe et qui fonctionne extrêmement bien, et il y a une chercheuse tout à fait remarquable à l'INRA, à Orsay, enfin, GIF, près de Paris, qui travaille avec eux et qui fait des recherches avec eux. Vraiment, c'est de la recherche totalement participative où les agriculteurs contribuent largement autant que la chercheuse à la recherche et où il y a vraiment une très, très belle dynamique de compréhension de ce que c'est que la diversité dans les champs. Donc, vous inquiétez pas, vous trouverez des semences et vous trouverez même tout un réseau pour vous aider sur ce plan-là.
Oui, oui, bonjour. J'ai une petite question qui risque d'être un peu provocatrice, mais en France, enfin dans nos pays occidentaux, la science porte la bonne parole. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut, sur le long terme, se laisser retoquer par des députés qui votent, par exemple, ce que vous disiez, la contribution obligatoire solidaire, enfin volontaire, alors qu'il y a une communauté de scientifiques qui pourrait très bien expliquer de manière relativement simple les risques qu'il y a. Alors, est-ce qu'il y a accointance entre...
Ah ouais, mais là...
Ça, j'aimerais comprendre tout ça, parce qu'en fait, on est dans un monde de scientifiques et vous détenez la vérité. Enfin, les scientifiques dans l'ensemble, là, vous apportez des preuves. Enfin, il faudrait d'autres réunions pour les mettre en évidence, probablement. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on a l'impression que tout repose sur la société civile, c'est-à-dire sur les Pékins qui sont dans cette salle. C'est ce qui me gêne beaucoup, moi, dans cette démarche-là.
Non, alors, je voudrais vous dire que vous allez être déçus, mais la communauté scientifique n'existe pas. Il y a des communautés scientifiques et que selon ce que je vous dis là, une majorité de mes collègues travaillant dans les mêmes domaines que moi seraient d'accord avec, c'est-à-dire mes collègues qui travaillent sur les phénomènes d'évolution, sur les phénomènes d'écologie, sur les phénomènes de génétique des populations. Mais je suis en désaccord total avec une immense majorité des biologistes qui sont à l'Académie des sciences, par exemple, et qui, eux, ne connaissent en gros que l'ADN et ce qui traîne juste autour, ou alors les neurones, parce qu'il y a en gros moitié de biologistes moléculaires, moitié de neurosciences dans l'Académie des sciences. Ces gens-là, eux, sont absolument convaincus que le progrès technique doit à aucun prix être freiné et que les agriculteurs qui ressèment leurs semences sont de dangereux passéistes et qu'ils empêchent l'agriculture d'avancer. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que l'agriculture. Je peux vous en citer un avec qui je me suis frité à la radio il n'y a pas très longtemps, c'était assez rigolo, il s'appelle Jean-Didier Vincent, c'est un neurobiologiste tout à fait respectable, et on était dans une émission de radio ensemble, et il critiquait Séralini qui avait montré que les plantes avec du Roundup donnaient des tumeurs assez rares. Maintenant tout le monde sait que c'est vrai, à l'époque on disait que c'était pas vrai, bon, et il le critiquait. Et au bout d'un moment, il me dit sa manip était mal faite. Et je lui réponds, écoute, Jean-Didier, parce qu'on se connaît bien, effectivement, il y a une communauté au sens du fait qu'on se connaît. Ouais. Alors je dis, Jean-Didier, tu dis que la manip est mal faite, je suis très content que tu dises ça, parce que j'espère que tu vas maintenant dire aussi que toutes les manips qui ont servi à autoriser les OGM sont mal faites, puisque c'est les mêmes. Bon. Et il m'a répondu, mais j'en sais rien, de toute façon, les OGM, on ne peut pas s'en passer pour l'agriculture. Alors je lui ai dit, mais Jean-Didier, tu es neurobiologiste, qu'est-ce que tu connais à l'agriculture? Et il m'a répondu... j'ai pas besoin d'y connaître quelque chose, je suis un scientifique reconnu, je peux avoir un avis même sur les choses que je connais pas. Et là, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce qu'il a dit ras-le-bol des socialistes, des spécialistes. Je vous jure que c'est vrai, c'est à la tête au carré. Et bon, tout le monde a rigolé et puis ça s'est arrêté comme ça. Mais voilà, il faut que vous compreniez que. Moi, la première fois d'ailleurs, que j'étais à la direction du CNRS, je me suis fait virer parce que j'étais allé défendre José Bové, qui avait arraché 3 graineries là, à Montpellier. Eh bien, j'étais l'un des rares scientifiques reconnus. J'étais le seul scientifique reconnu dans la défense. Mais dans la partie civile, il y avait tous mes collègues que je connaissais très bien, hein, et dont Jean-Didier Vincent d'ailleurs, des gens qui ne connaissaient rien aux questions d'agriculture et aux questions de risques liés aux OGM, mais qui étaient là pour défendre l'idée que la science, c'est le progrès, que le progrès, c'est les OGM. Donc, ne croyez surtout pas que ce que je vous dis là, ça soit ce que dit la communauté scientifique dans son ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que les Pékins qui sont ici, on en a besoin. Parce que si vous ne vous remuez pas pour dire qu'il y a deux sortes de scientifiques et ceux qui disent que les OGM, c'est une bonne chose... Eh bien, c'est des scientifiques qui ne s'occupent pas de problèmes fondamentaux comme ceux de la biodiversité. Eh bien, si jamais personne ne fait ça, eh bien, ils réussiront. En 98, je me souviens, 96, je me suis engueulé avec les producteurs d'OGM parce qu'à l'époque, je leur avais montré que leur gène de résistance aux herbicides chez les betteraves, ils allaient passer dans les betteraves sauvages. Chez les colzas, ils allaient passer dans la ravenelle et que ça allait foutre la merde dans la façon de gérer les, de gérer les herbicides. Et ils m'ont répondu, vous perdez votre temps, dans 2 ans, tout sera OGM. Eh bien, aujourd'hui, tout n'est pas OGM, et même il n'y a pas un seul OGM cultivé en France sur le plan commercial. Et pourquoi ? Bah parce que les PK en question, ils ont râlé, puis que les journalistes ont suivi, etc. Si jamais il n'y avait pas eu de mouvement, nous, les quelques scientifiques qui n'étions pas d'accord, on n'aurait eu aucun poids. Donc c'est effectivement sur vous que ça repose, il n'y a pas de doute.
Oui, je voulais exprimer une position plus modérée sur la biodiversité et ajouter que Cocopelli, il faudrait peut-être qu'on en parle, c'est quand même une organisation qui défend les espèces originales, originelles, ancestrales, qui ont des tas de qualités. Je crois qu'ils sont représentés ici et il faut peut-être parfois signer des pétitions pour les défendre, parce que les lobbyings qui mettent la main sur la propriété de la vie, ceux-là, ils ont le ballon. Alors, je vous parle d'une modération sur la biodiversité, parce que, alors, c'est peut-être un petit peu humoristique que je vais dire, mais si on veut défendre, moi j'ai des abeilles, si on veut défendre le varroa, le frelon asiatique, le chikungunya, Ebola, le moustique tigre, enfin, tout ce qu'on peut appeler ces saloperies ou qui peuvent nous transmettre des cochonneries, quelque part, heureusement que pour certaines, on essaye de les éliminer. Et puis, il y a aussi des espèces invasives. Donc, à un moment, la biodiversité, je suis pour une certaine modération. Ah. Et puis, je suis administrateur d'une association qui porte un projet de parc éolien, le seul qui a eu son permis dans le département du Jura. Eh bien, vous avez des anti-éoliens qui, sous couvert de la biodiversité pour protéger des oiseaux ou des chauves-souris, vont tirer dessus sur un parc éolien. Et moi, je préfère avoir un parc éolien près de chez moi plutôt qu'une centrale nucléaire. Donc, à un moment, il faut avoir dans une balance, mettre les avantages, les inconvénients, ne pas voir que l'aspect négatif ou que l'aspect positif. Il faut voir
l'ensemble. Bon, alors, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai raconté. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait garder les espèces ? Toutes les espèces ? Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai dit que la biodiversité, c'est quelque chose qui évolue. Et que l'évolution de cette biodiversité, on peut l'orienter. D'ailleurs, faire de la sélection, c'est orienter la biodiversité. Donc, on peut très bien orienter la biodiversité, d'une part. Et d'autre part, une des choses qui est mauvaise pour la biodiversité, c'est de trimballer les machins sur des très grandes distances. Les espèces invasives sont catastrophiques pour la dynamique même du système. Donc, les frelons asiatiques en particulier, ou certaines abeilles qui ramènent des maladies, etc., c'est un problème. Ceci dit, en revanche, je pense que les apiculteurs devraient se préoccuper de la biodiversité des abeilles. Parce que ça, je pense qu'on n'y a pas assez fait attention et que ça fait certainement partie des difficultés. Mais ceci dit, il faut d'abord interdire les néonicotinoïdes et autres saloperies comme ça qui sont catastrophiques et en plus se préoccuper de toute une série d'autres choses. Donc je n'ai jamais dit qu'il fallait garder chaque espèce. Je pense que prétendre qu'il faut garder chaque espèce, c'est justement ne pas avoir compris ce que c'est que la biodiversité. C'est au contraire garder une dynamique et orienter cette dynamique dans une direction qui peut nous intéresser. Je pense que c'est une manière beaucoup plus riche de voir la biodiversité et que, en plus, justement, ça ne tombe pas dans les écueils dont vous parliez.
Par rapport au début de la conférence, vous parliez de l'évolution. Je voulais savoir un peu l'impact des virus sur la modification du génome humain.
L'impact des virus sur la modification du génome humain. Oula, écoutez, on sait qu'il y a eu des on sait qu'il y a des virus qui sont capables de trimballer des morceaux de génome dans des génomes comme le nôtre. Pour le moment, en général, au moment où le génome s'installe, je pense qu'actuellement, si vous voulez, il n'y a pas d'effet, à part le virus du sida qui peut s'intégrer dans notre génome. À part ça, il n'y a pas d'effet évident. Maintenant, il y a des effets sur les temps évolutifs et qui sont sûrement, en général, des effets qui, sur le coup, sont catastrophiques. C'est-à-dire que quand un nouveau virus attaque une espèce, a priori, il commence par faire mal. Après, si jamais il reste et qu'on s'y habitue, il finit par avoir des effets peut-être évolutifs qui peuvent être à la limite positifs dans l'avenir. Mais sur le coup, c'est simplement une maladie. Il ne faut pas...
Je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur sur les abeilles, de manière précédente. La biodiversité, je ne sais pas où en est l'écologie par rapport à ce que j'ai appris il y a 20 ans, mais on en était à vouloir comprendre l'écologie et à ne pas comprendre l'interaction entre les plantes, à commencer à comprendre l'interaction entre les êtres vivants. Si on commence à vouloir maîtriser supprimer une espèce et en rajouter une autre, je pense qu'on joue avec le feu.
Alors vous avez raison, il y a des risques. C'est-à-dire que premièrement, quand vous dites supprimer une espèce, le frelon asiatique, c'est pas supprimer une espèce, c'est essayer d'empêcher une espèce envahisseuse d'envahir. C'est pas tout à fait la même chose. Ceci dit, à mon avis, c'est perdu maintenant. On n'arrêtera pas les frelons asiatiques. Il va falloir faire avec. Ce que vous dites est particulièrement vrai pour les moustiques. Et c'est vrai que c'est un gros problème parce que les moustiques sont des vecteurs de maladies gravissimes. Et donc, on pourrait se dire qu'en se débarrassant de certains moustiques vecteurs, eh ben, on pourrait quand même éviter des problèmes de santé extrêmement graves. Mais pour le moment, ce qu'on voit quand on joue à ce jeu-là, c'est que si on arrive à très fortement perturber une espèce de moustique, ce qui arrive, c'est qu'il y en a une ou deux qui viennent la remplacer et qu'il arrive que les effets de celles qui viennent la remplacer soient pires que ceux de celles qu'on a enlevées. Donc, il y a une vraie réflexion, effectivement, de déséquilibre écologique. Et c'est pour ça que quand je disais qu'il ne s'agissait pas ni de dire qu'on va garder toutes les espèces, hein, ça, c'est pas la solution, mais c'est de dire qu'on peut essayer d'orienter la dynamique de la diversité dans une direction qui nous intéresse, c'est-à-dire, par exemple, une direction qui permettrait aux abeilles d'être en pleine forme. Et orienter, c'est pas la même chose que décider de supprimer le varroa, par exemple. Ça aussi, de toute façon, c'est pas faisable, hein, mais on peut essayer de limiter le varroa et vous pouvez... Je pense que si jamais vous dites... vous savez qu'on a quand même éliminé le virus de la variole. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui propose de le réintroduire. Donc il y a quand même des limites.
Oui, bonjour. Je voudrais vous remercier pour avoir parlé d'évolution aussi vite et aussi bien. Voilà, d'une part. D'autre part, je voudrais vous rassurer... sur les professeurs de sciences naturelles, je dis sciences naturelles exprès, en terminale, qui ont quand même une définition de l'espèce qui n'est pas statique, mais qui est complètement évolutive. Et justement, il y a une grande partie du programme qui est sur l'évolution. Et on se sert même de vos dires.
J'espérais bien que vous alliez me répondre.
Mais j'ai pas fini.
Ah, pardon.
Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je voudrais aussi vous dire qu'en tant que faucheur volontaire, je peux vous affirmer qu'il y a des OGM cultivés en France, et vous le savez, ce sont des variétés mutées qui ont été reconnues aux organismes génétiquement modifiés par la directive 2018, mais qui ont été sorties de son champ d'application au motif que la mutagénèse existe depuis plus de 50 ans et qu'elle n'a pas provoqué de risque, elle ne s'est pas montrée dangereuse. Or, cette mutagénèse était au début sur des plantes, je vous parle en tant que faucheur, donc sur des plantes, et que cette mutagénèse est moins risquée que la mutagénèse actuelle qui est faite sur des cellules, avec des effets non intentionnels qui sont beaucoup plus graves, quoi. Et puis, bien sûr, c'est breveté et on a le même problème. Donc, il y a des OGM brevetés en France qui sont cultivés actuellement. C'est le colza VRTH, rendu résistant à un herbicide, et le tournesol, rendu résistant à un herbicide. Et il y a du tournesol chez nous, pas loin, là, VRTH.
Oui. Alors, vous avez tout à fait raison pour le dernier point, effectivement. Je pense que ces deux trucs-là, comme ils sont brevetés, devraient être appelés OGM et que j'espère qu'ils le seront. Pour le premier point, je suis content qu'en terminale, vous parliez d'évolution. Ce que j'ai pu constater, c'est que, premièrement, l'évolution et la génétique restent très, très découplées et que, du coup, il n'y a pas une compréhension globale du phénomène qui ressort de la façon dont les cours sont donnés dans la plupart des cas. Et je parlais des profs de SVT, moi, c'était plus tôt dans le système, vers la troisième. Et la définition de l'espèce, elle est donnée beaucoup plus tôt que ça. Et j'ai eu des discussions terribles avec mes collègues qui s'occupent des programmes, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais vous comprenez, on ne peut pas parler directement d'évolution, parce que l'évolution, ça a été découvert assez tard, alors il faut respecter un peu l'ordre dans lequel les choses ont été découvertes. Et je leur ai dit, mais oui, c'est ça, vous commencez par expliquer que la Terre est plate aux enfants, puis arrivez en première, vous leur direz qu'elle est ronde, on verra ce que ça donne. Évidemment que c'est... Mais je plaisante pas tout à fait, parce que, vous voyez, c'était difficile d'admettre que la Terre est ronde pour des gens qui avaient toujours pensé qu'elle était plate. Et l'idée des antipodes du mec de l'autre côté avec la tête en bas, d'ailleurs, quand on raconte que la Terre est ronde à des enfants, ça arrive encore aujourd'hui, qui disent, mais comment il est le mec de l'autre côté et tout. Et puis on lui dit, bah oui, bah c'est comme ça, et puis au bout d'un moment, il est habitué, puis tout le monde est d'accord. Ce qu'il y a de terrible, vous êtes prof en terminale, c'est très bien, mais c'est beaucoup trop tard pour parler d'évolution. Je vous dis que rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Je pense qu'on devrait commencer l'évolution en primaire. Et on ne devrait presque rien présenter en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc ça changerait tout, parce que là, la respiration s'est présentée comme un truc magique qui a été fabriqué par je ne sais quel créateur. Les espèces, ça a été fabriqué par le créateur, etc. Jusqu'à la seconde, première, et puis là, on commence à entendre parler d'évolution. C'est beaucoup trop tard. Voilà.
Je suis d'accord, absolument d'accord. Mais c'est pas les profs qui font les programmes. Du moins, ils en font une toute petite partie et c'est pas forcément accepté. Alors, on est dans la même situation que vous, avec vos collègues scientifiques et tout. Voilà.
J'ai été invité par des collègues de Vaux-en-Velin pour venir en parler d'évolution avec leurs élèves et j'ai vu la difficulté. Je trouvais ça très intéressant d'ailleurs. Je suis tout à fait conscient des difficultés que vous rencontrez.
Il faut dire que les profs de sciences naturelles sont aussi une espèce menacée. Hein. Et donc là, il y a une vraie bagarre à mener au sein de l'éducation nationale. Oui, pardon, monsieur, je vous avais oublié.
Oui, je voulais donner une petite information pratique. Je travaille dans une jardinerie et je voulais simplement rappeler ou dire que les produits qui sont vendus sous le nom Fertiligène, la marque Fertiligène ou KB, sont des produits de Monsanto. Voilà. Donc, pensez quand vous allez dans une jardinerie, Fertiligène, il faut laisser tomber. Sinon, vous donnez de l'argent à Monsanto. Voilà. Voilà. Merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse la parole à Biocop.
Mesdames, messieurs, donc toutes les bonnes choses ont une fin. Donc nous vous remercions d'avoir assisté à cette conférence. Et je tenais donc à remercier au nom de toute l'association des Biocop lyonnaises, M. Gouillon, pour cette conférence très enrichissante.